Bonsoir et bienvenue dans Ondes Noires, l'émission polar la plus rock de la bande FM.
Bonsoir Jacques.
Bonsoir Corinne.
Eh bien, au sommaire de cette émission, on va être très rapide. En première partie, une interview. En deuxième partie, des coups de cœur. Et voilà, on passe sur l'interview. Donc, nous avons le grand plaisir d'accueillir ce soir, dans cette première partie d'émission, Marin Ledin. Marin Ledin, bonsoir.
Bonsoir.
Et vraiment, merci de nous rejoindre.
Avec
donc,
plaisir.
Vous venez nous parler de votre dernier roman, qui s'appelle « Visage écrasé » et qui est paru aux éditions du Seuil. Je vais faire directement une déclaration pour vous dire que, d'ores et déjà pour moi, c'est un des plus grands romans de 2011. Je sais qu'on n'est qu'à la fin du mois de mai, mais c'est un roman qui m'a vraiment impressionnée. Voilà, je voulais le dire. Rapide biographie. Allez, très rapide. 7 romans, un polar jeunesse chez Syros qui s'appelle « Un cri dans la forêt », plusieurs essais, quelques nouvelles. On s'arrêtera là pour la biographie, ça vous va ?
Oui, c'est pas mal.
Voilà. Donc je préfère, on s'intéresse surtout au livre. Voilà. Donc Visage écrasé, votre dernier roman, on va rentrer directement dans le thème du roman, vous demandant la signification du titre, s'il vous plaît.
Alors les visages écrasés, l'idée, si vous voulez, c'était partie d'une réplique dans le livre « Dans Vol de nuit » de Saint-Exupéry. Et la réplique qui était tenue par un ingénieur qui parlait à Rivière, c'était « Un pont vaut-il le prix d'un visage écrasé ?» Donc j'ai filé un petit peu la métaphore et l'idée c'était une entreprise qui fait des bénéfices, un monde où l'économie qui est le chiffre prime, est-ce que ça justifie qu'aujourd'hui il y ait des morts en entreprise, de suicides, d'accidents du travail aussi, etc.
Ouais, là, c'est vrai qu'on va beaucoup parler de suicide. La narration est à la première personne. Et tout le long du roman, on va suivre Carole Mathieu. Elle est médecin du travail. Elle travaille dans une espèce de plateforme téléphonique. Enfin, les gens sont très souvent en train de passer des coups de fil. C'est assez flou, mais on reconnaît assez bien. Et c'est donc le témoin impuissant, Carole Mathieu, de toutes les souffrances des employés. Vous lui faites dire... Je suis l'un des derniers remparts face à la politique de mobilité et de licenciement qui est mise en place depuis plusieurs années et qui ne s'achèvera que par la fermeture du centre. C'était vraiment le personnage idéal pour parler de ce thème ?
Alors, Carole Mathieu, c'est une médecin. Et ce qui est intéressant dans le personnage du médecin, du point de vue narratif et puis pour donner de la force un petit peu au récit, c'est que le médecin du travail, c'est quelqu'un à la fois qui est d'une certaine manière un petit peu extérieur, qui obéit à des règles extérieures, qui sont les règles de la médecine, d'un code de déontologie, de l'ordre du conseil de l'ordre, etc. Et à la fois, donc qui porte un regard quand même clinique, médical, précis, j'allais dire presque proche de l'enquête policière, puisqu'on est quand même dans le roman noir.
Et enquête ethnologique en même temps.
Et voilà. Et à la fois, c'est aussi un médecin du travail, c'est aussi un salarié. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui est dans l'entreprise, qui vit avec les salariés, qui est payé par l'entreprise, donc qui partage toutes les règles de travail des salariés. Donc c'est quelqu'un qui est à la fois extérieur et qui à la fois est complètement dedans, qui vit avec les salariés, qui connaît toute leur vie. Normalement, tous les salariés passent à un moment donné dans le bureau du médecin du travail.
Et pour leur décrire à la fois les souffrances physiques, c'est-à-dire leurs petits bobos, on va dire, et puis surtout ce qu'ils subissent mentalement de la part des grands chefs jusqu'au petit chef Fayon. Et on sent dans ce roman, enfin il me semble que vous le portez depuis très très longtemps, est-ce que tout ce que vous décrivez, cette souffrance, ces dépressions, vous l'avez vécu, vous l'avez étudié auparavant, au moment dans une autre vie où vous étiez salarié vous-même?
Ah ben dans une autre vie, moi j'en ai vu une petite partie, mais j'en ai vu la partie du salarié. Moi j'ai été salarié de France Télécom il y a déjà un petit moment, pendant 7 ans, et j'ai vécu, mais uniquement de mon point de vue, j'avais pas ce regard qu'on peut avoir une fois qu'on a quitté l'entreprise, une fois qu'on en est sorti, quelque part le regard qui est le regard de Carole Mathieu, c'est-à-dire que j'étais à l'intérieur, mais peut-être que j'avais du mal à avoir le recul pour voir le secret. L'avantage de ce personnage dans ce roman, c'est précisément qu'elle nous dit haut et fort que l'entreprise n'est pas quelque chose de secret, on a le droit d'en parler, qu'il faut en parler, et que c'est plus que jamais nécessaire aujourd'hui, quand on voit ce qui se développe malheureusement de problèmes dans le monde du travail.
Oui, c'est sûr que Carole, en plus, comme elle le dit à un moment donné, elle peut écouter tout le monde, mais malheureusement, elle, personne ne peut l'écouter. Il n'y a pas un médecin qui écoute le médecin du travail.
Elle est soumise au secret, et puis puis elle est, et puis surtout, elle est soumise au secret médical. Donc théoriquement, elle ne doit pas parler. C'est un espèce de piège comme ça, mais qui est symboliquement le piège aujourd'hui du salariat en entreprise. C'est-à-dire que on peut, si on est salarié, si on tient le coup, on peut dénoncer ces choses-là. Mais on prend le risque de perdre son boulot, on perd le risque de plus avoir d'argent à la fin du mois pour payer les dettes, etc., etc. Donc elle est un petit peu le symbole de ces salariés-là, quoi, si vous voulez.
Et en fait, c'est aussi un piège qu'ont très 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 bien organisé les gens qui ont créé les entreprises. C'était très pratique d'avoir ce secret professionnel quand même, de pouvoir avoir quelqu'un. C'est presque une excuse pour eux en même temps. Ah, mais il y a quand même le médecin du travail, voyez, on fait tout pour vous.
Et oui, c'est une position pas simple. C'est-à-dire que le médecin du travail, alors sous réserve, hein, il faut demander après à des médecins du travail qui sont plus compétents que moi pour en parler, mais le médecin du travail, il est censé s'assurer que les personnes sont en état psychique et physique de travailler. Il est pas là pour les soigner. Il va pas émettre d'ordonnance. Ça, c'est les médecins de famille ou bon, un spécialiste extérieur à l'entreprise qui va faire ça. Mais le médecin du travail, il est juste là pour s'assurer que les salariés peuvent travailler, sont en état de travailler. Seulement quand il s'aperçoit qu'ils ne le sont pas, et quand les problèmes sont plus d'ordre psychique que physique, c'est facile. Un salarié qui a une jambe cassée, il peut pas monter sur une échelle. Un salarié qui a un bobo à la tête, qui a mal au ventre, qui n'arrive pas à dormir, qui n'arrive pas à aller au boulot, voire plus grave, le médecin du travail ne peut pas faire grand chose. Et il se retrouve dans une forme un petit peu d'impossibilité, quoi.
Et donc, Carole, alors ça, je vais pouvoir le dire parce qu'on est dans un roman noir et on n'est pas dans un roman policier dont le but est de découvrir le who d'unit, c'est-à-dire qui a commis le crime. Dès les premières pages, elle va commettre ce qu'on peut appeler, ce qu'on a appelé pour un cas célèbre, un homicide altruiste. Est-ce que vous pourriez nous en parler un petit peu de ce meurtre que Carole va commettre ?
Ce meurtre, c'est vraiment... c'est presque une forme d'euthanasie, quoi. C'est-à-dire qu'elle assiste impuissante à la dégringolade de certains salariés, en l'occurrence d'un salarié qui s'appelle Vincent Fournier dans le livre, et elle sait bien que non seulement elle va pas pouvoir sortir de là, elle va pas pouvoir le guérir parce que c'est pas son boulot à elle, et elle craint que malheureusement lui il mette fin à ses jours. Et donc elle décide et que du coup le silence va continuer autour de ces questions-là, ou si il y aura peut-être un peu de tapage médiatique, mais enfin bon, en gros on en reste là parce que l'entreprise c'est secret. Et elle, ce qu'elle veut, c'est qu'on en parle, elle veut que ça se sache, elle veut le crier, elle veut crier le fait que elle, ça la rend malade de voir ça, mais elle veut aussi qu'à un moment donné, ces morts, d'une certaine manière, servent à quelque chose. Que ce soit pas des espèces de victimes comme ça, anonymes, dont qu'on va commémorer dans 50 ans ou 60 ans en érigeant une stèle, elle a envie que ce soit maintenant et qu'on s'en occupe maintenant. Donc elle va pratiquer un petit peu une forme, c'est vraiment une forme d'euthanasie,
je pense. C'est une euthanasie, puis en même temps, elle décrit ensuite que, de toute façon, c'était presque la meilleure solution pour lui dans l'état où elle le trouvait à ce moment-là. Elle avait essayé, elle l'avait envoyé voir des psys, elle l'avait envoyé voir plein de choses, et plein de personnes, pardon. Et de toute façon, c'était la seule issue possible. Et comme vous dites, la meilleure chose qui puisse lui arriver, c'est que ce soit pas un suicide lambda, comme on entend tellement parler dans les médias qu'ils ne prennent même plus un ton offusqué, mais que ce soit un meurtre et qu'on commence à faire des investigations.
Voilà, exactement. Alors après, on n'oublie pas qu'on est dans le registre de la fiction et qu'un meurtre reste un meurtre et que y a, dans l'absolu, pour moi, il n'y a pas de meurtre utile. Mais dans le livre, l'idée, c'est vraiment à un moment donné de forcer le trait et de dire mais quand est-ce que vous allez réaliser qu'il se passe vraiment quelque chose de grave, quoi. L'actualité avec malheureusement.
En plein dans le roman, on entendait deux nouvelles, un qui se suicidait sur le parking de son entreprise. Voilà, il y avait...
Qui s'immolait, c'est un geste très très fort. C'est quelque chose qu'on avait évoqué quand on réfléchissait à ces questions, quand on avait travaillé sur l'essai que j'ai coécrit avec Brigitte Fonlebré et Bernard Floris. Et cette question, à ce moment-là, si vous voulez, il y avait en Tunisie, au moment de la révolution qui était en train de se mettre en place, il y avait eu comme ça une personne ou plusieurs personnes qui s'étaient suicidées par immolation. Et on disait, mais il s'est passé la même chose. C'est bien quelque part qu'il y a il y a vraiment quelque chose d'extrêmement violent pour en arriver là. Ça, c'est, voilà, à un moment donné, il faut quand même le dire, quoi. Et il faut quand même faire entendre un petit peu la voix, enfin, pas un petit peu, beaucoup, il faut faire entendre la voix des salariés. C'est ce que ce médecin du travail, avec ce moyen-là, je suis pas en train de dire que c'est le meilleur moyen, hein, évidemment, parce que...
Non, on est de toute façon, certainement pas.
Mais elle est un petit peu impuissante, elle sait pas quoi faire et elle se retrouve un peu comme ça à utiliser ce moyen-là pour crier et dire aujourd'hui il y a des gens qui meurent et ce sont des morts qu'on peut éviter, quoi, en travaillant autrement.
Oui, et d'ailleurs c'est d'autant pas une solution qu'elle va tomber petit à petit elle-même dans une psychose et une dépression absolument terrible. Mmh. Et tout le long du roman, on va la voir lutter. Pour non pas s'innocenter, c'est pas ça l'intérêt. Elle a pas envie. Enfin, elle a pas envie d'être en prison certainement, mais elle a pas vraiment envie de s'innocenter. Mais ce qu'elle veut montrer, c'est au reste du monde toute l'horreur et toutes les tortures morales dont elle est témoin depuis quelques années. Et je cite, et ça illustre bien vos propos, une phrase qui m'a beaucoup heurtée et fait du mal. Elle parle des salariés qu'elle a vus. Je le vois passer du statut de salarié à celui de rouage, du rouage à la bête aux abois, de la bête aux abois aux légumes et du légume à l'oubli. Et donc cet acte, c'est tout simplement contre l'oubli.
Oui, voilà, c'est exactement ça. C'est ouvrez les yeux, ça se passe autour de vous, ça se passe tous les jours, ça se passe probablement aussi chez vous. Et il faut, voilà, ne pas oublier, pas oublier ce qui se passe depuis un certain nombre d'années, et puis il y a des solutions, quoi. Enfin voilà, l'idée c'est vraiment ça, il y a des solutions, on peut résoudre ces problèmes-là. Alors pourquoi on s'y attaque pas, quoi? Bon, on a une petite idée de la réponse.
On a quand même quelques rouages grinçants avant de pouvoir arriver à des solutions.
Oui.
Donc, donc, en dehors de ce thème, moi, ce qui m'a beaucoup intéressé, parce qu'on n'arrête pas de dire, donc c'est une fiction, on n'est pas dans un essai, on n'est pas dans un livre documentaire qui raconte le monde du travail, c'est un très, très beau roman. Donc, il y a ce thème central, je vais dire un petit peu macrocosmique, en toile de fond, c'est politique d'entreprise pour décerveler des humains. Mais moi, ce qui m'a aussi beaucoup intéressé, c'est l'astuce narrative, hein, c'est de plonger. Alors là, on parle dans le microcosmique, dans le cerveau de Carole Mathieu, qui sombre petit à petit, bien aidée, je dois dire, par les médicaments, qui d'un côté la font tenir, mais la font plonger aussi. Et vos mots, vos phrases sonnent vraiment très très juste au fur et à mesure que vous décrivez cet abîme. J'ai l'impression que ça n'a pas dû être facile pour vous de décrire cette souffrance, à la fois du monde de l'entreprise, mais aussi ce que vit Carole.
Alors, Le travail narratif, c'était il y a deux écueils dans un roman comme ça. Le premier écueil, c'est que je donne le coupable et le nom de la victime dès le début du roman. Donc si je veux arriver à tenir mon engagement de romancier, il va falloir que je mette la gomme pour que les personnes ne lâchent pas le livre en disant bon, c'est bon, on a la solution au début du livre. Bon, voilà. La deuxième chose, c'est que je parle d'un sujet qui est effectivement très réaliste, ce qui ne veut pas dire réel. Très réaliste, mais qui est absolument pas sexy. Je m'excuse du mot, hein, mais c'est un mot que j'ai entendu dans les débats qu'il y a eu autour de cette thématique-là. C'est que l'entreprise, c'est quelque chose qui est absolument pas passionnant. D'ailleurs, il y a finalement assez peu de polars sur cette thématique-là. Il y en a, hein, bien sûr, mais
il commence. On dirait qu'il y a une émergence. Je parlerai par exemple d'un voilà. roman que j'avais bien aimé qui s'appelle Cadre Noir de Pierre Lemaître. Il y a un petit peu comme le roman noir qui décrit un petit peu les problèmes de la société actuelle.
Oui, et puis il y a un peu plus de 10 ans, il y a le couperet de Donna Westlake. On n'est pas proprement parlé dans l'entreprise, mais enfin bon, on est quand même sur la thématique.
On est quand même dans la souffrance des gens qui souffrent parce que le monde du travail est dur, on va dire.
Et de manière magistrale. Et donc, pour répondre à votre question du début, à cause de ces deux écueils-là, moi, il fallait que j'accélère un petit peu le mouvement d'écriture. C'est-à-dire que je me cantonne à des énumérations comme ça d'actions, de faits, de pensées. Je marche dans le couloir, je rencontre un salarié, je lui dis bonjour, j'avale, etc. Et c'est pour ça que je suis passé à la première personne du singulier, c'est-à-dire que ça permet d'accélérer comme ça l'écriture. Et donc, on espère la lecture.
Pour et que, de décrire actes et pensées.
Pour qu'il n'y ait pas une minute de répit. C'est-à-dire qu'on la suit, l'histoire s'étale comme ça sur trois jours. Et on la lâche pas une minute, quoi. C'est-à-dire qu'il y a vraiment pas un moment de répit.
Oui, et justement, donc vous parliez de rythme. Ce qui est très très intéressant, c'est que d'un côté, petit à petit, les idées de Carole, je l'ai dit, elle prend beaucoup de médicaments pour tenir, pour arriver à tenir cette mission, c'est-à-dire de révéler au monde ce que l'horreur de l'entreprise dans laquelle elle travaille. Donc ces idées deviennent de plus en plus floues, mais les événements se précipitent. Le rythme de la narration est tenu de bout en bout, comme vous dites, les actes, les pensées, les idées, et ça recommence. Et puis, comme si vous mettiez un petit peu un croche-pied, mais ça marche génialement bien, vous arrêtez la narration régulièrement par des lettres, des rapports techniques, des rapports d'expertise, de psy, de spécialistes, et c'est des rapports très très techniques. Des fois, on a l'impression qu'on ne comprend pas, mais en fait, par rapport aux idées de Carole qui s'emballent, ça, en fait, ça nous fait revenir sur Terre, ça nous fait redescendre sur Terre. Comment vous avez travaillé ces petites, comment on va dire, parenthèses, ces ponctuations?
Ces parenthèses, c'était d'abord pour rappeler que Carole Mathieu, à un moment donné, elle cède à une sorte de folie quand même, et que le réel, c'est pas tout à fait ça non plus. Et à la fois, on peut inverser, c'est-à-dire qu'on peut imaginer qu'elle est très très humaine et que ses rapports sont très très froids, très glaçants. C'était pour montrer un petit peu l'espèce d'antagonisme qu'il y a comme ça dans la manière dont sont traités les salariés. C'est-à-dire que les salariés, c'est à la fois quelque chose de très humain, j'ai beaucoup insisté là-dessus dans le rythme de narration, sur la banalité de la matérialité de cette souffrance. Ce sont des choses très banales, c'est des brimades, c'est des coups de fil à répétition du supérieur hiérarchique pour rien dire, c'est des réunions, c'est tout un tas de petites choses. Et donc pour ça, il fallait vraiment rentrer dans le quotidien, dans le concret, et en opposition à quelque chose de plus lisse, de plus froid, qui sont ces rapports, quoi, finalement, et qui sont une piqûre pour dire, voilà, là, il y a aussi le réel, c'est aussi ça, mais ça se limite pas qu'à ça. C'est pour dire que ces individus qui sont en entreprise, comme Carole Mathieu, je le redis dans le bouquin, mais c'est une salariée comme les autres, ces individus sont à la fois des humains, avec des rapports humains, avec aussi des rapports de domination, des rapports de pouvoir, etc., et à la fois, ils sont aussi, à un moment donné, simplement des noms sur des feuilles de papier, sur des rapports, des chiffres, des données, taux de réussite, compétences, etc. Toute cette mécanique un petit peu de quantification de chiffres qui est faite sur les individus pour servir les objectifs de l'entreprise au final. Et voilà, je voulais vraiment insister sur ça, et il me semblait que c'était important de faire des espèces de petites piqûres de rappel qui permettaient de quitter un petit peu la folie de Carole Mathieu par moment, de regarder ses rapports et de se dire, mais qui est vraiment fou dans cette histoire?
Alors, le temps passant très vite, ça va m'amener à la dernière question, et je pense que ça illustre assez bien vos dernières phrases. En fait, quand on regarde, on va généraliser un petit peu, quand on regarde votre bibliographie, elle semble un petit peu disparate, parce qu'elle flirte avec de nombreux genres, thrillers technologiques, mais finalement, on retrouve, il me semble, toujours le même sujet, qui est en fait l'asservissement de l'être humain, sans même qu'il s'en aperçoive. Ça vous convient comme fil conducteur de votre œuvre?
C'est la mécanique du contrôle social dans nos sociétés, quoi.
Voilà. Oui, donc ça revient. Voilà, on est au synonyme, là. Eh bien, je vous remercie beaucoup, Marin Ledin. Donc, je rappelle le titre du roman, Les visages écrasés, roman indispensable aux éditions du Seuil. J'oserais dire que pour ce début du 21e siècle, on tient un peu un germinal. Voilà. Merci beaucoup, Marin Ledin. À bientôt.
Merci beaucoup.
Au revoir.
Au revoir.